France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Aujourd'hui, les enfants, l'école et la nature. Avec les pratiques de classe dehors, des écoles qui s'installent dans la forêt et même une proposition de loi visant à reconnaître l'éducation en dehors et en contact avec la nature et à réaffirmer la place de la transition écologique à l'école, ce sont les termes. Donc un projet de loi déposé le mardi 24 juin 2025 pour être exactement super précise et donc un mouvement vers l'extérieur semble se dessiner. Dans le monde de l'éducation. On me sollicite d'ailleurs constamment pour parler de l'école en plein air. La difficulté étant de me renouveler, j'ai déjà fait plusieurs émissions et je ne voudrais pas me contenter de ressasser des idées peut-être un peu reçues. La nature, c'est bien, c'est beau, c'est pédagogique. Et puis, un livre est arrivé. La nature à hauteur d'enfant. Bonjour Julien Vitores.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cette stimulante enquête sociologique où l'on croise, c'est le principe des enquêtes sociologiques, des enfants, de maternelle, des parents, de tout milieu et des enseignants. Et cette lecture, c'est l'occasion de s'interroger. Qu'est-ce que la nature ? Alors pas qu'est-ce que la nature en général, qu'est-ce que la nature à nos yeux ? Qu'est-ce que la nature pour les enfants ? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'en faire un support pour les apprentissages ? Ça revient aussi à se demander ce que fait l'école aux objets dont elle s'empare. Pour le dire autrement, scolariser la nature, est-ce une si bonne idée ?
S'accrocher à la corde de la charrette parce qu'on va dans le bois.
Dans le bois. Dans le bois. Dans le bois. Dans le bois.
Allez, on y va, les enfants.
On appuie sur le feu. Et on appuie sur le bois. Après, c'est bon. Oh. J'ai trouvé une pomme de pain avec des champignons. Et aussi, venez.
Quand vous voyez des champignons comme ça dans les bois, il faut surtout pas les toucher. Pourquoi il faut pas les toucher?
Parce qu'ils sont fragiles. Ils sont toxiques.
Ça oui, vous rappelle des petites sorties, Julien Vitores ?
Oui, oui, ça me rappelle plein de sorties, effectivement, et de moments dans lesquels on est amené à découvrir la nature et aussi apprendre à la respecter pour sa fragilité.
Et attention aux champignons, parce que nous aussi, on est fragiles. Alors, évidemment. Vous êtes agrégé de sciences économiques et sociales, sociologue, enseignant à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vos travaux portent sur la socialisation des enfants, les inégalités d'apprentissage et la construction sociale du rapport à la nature. La nature à hauteur d'enfant, votre ouvrage est paru en septembre, à la découverte. De quoi vous êtes parti ? On projetterait un rapport naturel des enfants au vivant, et ça, vous avez voulu l'interroger.
Oui, c'est une idée qu'on retrouve assez fréquemment à la fois en pédagogie, mais aussi dans des travaux de psychologie, notamment qui se sont construits autour de l'idée d'une biophilie enfantine, c'est-à-dire l'idée que les enfants, de manière plus spontanée et plus évidente que les adultes, ressentiraient un attrait pour les choses naturelles ou le vivant. Or, déjà, rien que dans ce terme biophilie, ce que recouvre exactement le bio, c'est-à-dire qu'est-ce que le vivant ou la nature, il m'a semblé que c'était pas quelque chose de tout à fait évident, que tous les enfants n'avaient pas le même rapport aux choses naturelles, aux environnements, aux espaces et à ce qui les compose, et que c'était intéressant d'aller creuser justement et de documenter par une enquête sociologique comment se construisaient des rapports à la nature, à l'environnement, quel que soit le terme qu'on utilise, socialement différenciés.
Alors, comment avez-vous procédé? Où êtes-vous allé? Combien de temps vous avez passé assis sur des petites chaises de classe de maternelle? Vous avez dû avoir pas mal au dos. Quelle position vous avez eue vis-à-vis des professeurs et des petits élèves de maternelle?
Oui, donc j'ai eu l'occasion de mener des observations en contexte scolaire dans trois écoles assez socialement différenciées en termes de public. Une école plutôt mixte du nord de Paris avec des parents de classe moyenne et supérieure et aussi des parents de classe populaire, parfois sans emploi ou avec des emplois faiblement qualifiés. aussi une école dans l'Ouest parisien, là plutôt avec des parents très dotés en capital économique et qui ont des ressources patrimoniales, des résidences secondaires qui leur permettent d'accéder fréquemment à des espaces naturels, disons canoniques, la mer, la montagne, la forêt, etc. Et ensuite une troisième école dans un contexte plus rural, dans une commune du sud de la France très marquée par l'agriculture agricole et dans laquelle j'avais moi-même fait ma scolarité.
La vigne.
Ouais, exactement. C'est un coin où la nature, c'est soit la forêt, soit la vigne.
La nature à hauteur d'enfance, pas un livre qui parle de la classe dehors, mais c'était intéressant évidemment de vous mettre en contact avec des enseignants qui la pratiquent. J'en ai convié deux. Bonjour Alexandre Ribaud.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission classe dehors pour l'Académie de Paris, fondateur de École dehors dans le 18e arrondissement. On parlait d'arrondissement populaire et de classe un petit peu mélangée, mixte socialement. Je pense que c'est encore le cas en maternelle dans cette partie de la capitale. Vous avez publié Faire classe dehors, maternelle et élémentaire aux éditions École Vivante en 2022. Comment ne pas vous inviter dans ce numéro d'Être et Savoir. Avec nous également Delia Gobert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des écoles en maternelle, toutes sections confondues. Vous avez une classe mélangée dans l'Académie de Reims et vous pratiquez la classe dehors. Vous allez nous raconter ça. Alexandre Ribaud, déjà, je voulais vous faire réagir au propos de Julien Vitorès sur ce rapport finalement très social à la nature. On va prendre des exemples et des représentations qui diffèrent déjà chez des enfants de 3-4 ans.
Bah écoutez, moi j'ai lu cette étude avec grand intérêt, mais au risque de vous surprendre un peu, l'approche de la classe dehors, c'est pas forcément une approche qui est liée à la nature. La classe dehors, c'est faire classe dehors, mais ça peut tout à fait être des pratiques très académiques. La nature vient spontanément parce qu'on voilà, on sort du cadre de la classe, mais voilà, c'est pas forcément le premier, la première chose qui nous emmène dehors en fait. Voilà, l'idée de dehors pour moi, c'est surtout l'idée de profiter de l'espace et du mouvement et de la place.
Et c'est bien de le préciser, et en fait je n'ignorais pas, mais concernant la question de la nature, pour y revenir, dans ces représentations qu'on véhicule, mais même en lisant des contes, même en étant à l'intérieur de la nature, en parlant par exemple des animaux, des arbres, des champignons, des rivières, bon, etc., on voit bien que les élèves n'ont pas, et c'est ce que raconte Julien Vitorès, les mêmes représentations, les mêmes expériences, déjà tout petit. Qu'est-ce que vous en voyez, vous ?
C'est vrai que pour avoir pratiqué donc la classe dehors avec ma propre classe pendant plusieurs années, c'est vrai que c'est assez flagrant. C'est-à-dire que ce que décrit Julien, c'est qu'il y a des représentations très différentes et que les enfants arrivent avec une perception très inégale de la nature. Certains vont connaissent bien parce qu'ils ont l'habitude de la fréquenter, d'autres vont avoir plus des craintes par rapport à la nature. Ils vont arriver, ils vont trouver que c'est sale, de s'asseoir dans l'herbe, etc. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai lu cet ouvrage, j'étais assez... finalement assez séduit par l'idée que ben en fait apprendre la nature c'est un travail de professionnel et peut-être qu'il faut confier ça à l'éducation parce que on sait travailler comme ça aussi avec des enfants qui sont très différents les uns des autres et peut-être que c'est un vrai métier d'apprendre la nature en fait c'est un peu ce que vous dites finalement dans votre ouvrage.
Et dans l'idée que les élèves ont des connaissances assez variables de la nature pour ce que ça veut dire, il y a un peu l'idée que c'est dommage en fait on les prend pas comme ils viennent, qu'il y a un jugement.
Oui, en fait, en tout cas, ce que j'essaye de montrer ou de documenter, et c'est pas quelque chose qui est, comment dire, absolument nouveau pour le coup, et ça préexiste à la question de l'école qui se pratique dehors ou pas. Mais disons que simplement dans les contenus des premiers apprentissages, le fait de connaître des choses élémentaires sur le monde naturel, ça fait partie des programmes de l'école maternelle, mais ça fait aussi plus largement partie des savoirs culturellement valorisés et scolairement valorisés depuis la leçon de choses dans l'histoire naturelle au 19e siècle. Ce qui me semblait intéressant, c'est de voir qu'est-ce que cette valorisation d'un savoir qui est perçu comme souvent élémentaire, le fait de connaître des choses de base sur la nature, qu'est-ce que ça produit quand justement on met en relation dans un même espace classe ou dans des espaces où les enfants se rencontrent, des enfants qui justement n'ont pas les mêmes expériences ou n'ont pas les mêmes connaissances dites élémentaires, y compris des choses naturelles qu'on peut observer soit directement, mais aussi dans des livres, dans des supports, qui sont autant d'occasions d'apprendre.
On va prendre un exemple avec un son, le son de la mer. Alors pourquoi je diffuse ce son? C'est parce que vous prenez un exemple très précis d'une enseignante, c'est à Paris, qui diffuse un son comme ça, et un élève dit « Ah, ça ressemble à une chasse d'eau mm-hmm. ». Cette scène, elle est hyper marquante dans votre livre. Racontez-nous-en un peu plus.
Oui, moi ce que je trouvais marquant, c'est qu'elle est révélatrice de plein de choses. Déjà que l'enseignante, dans cette situation, elle avait tout à fait conscience, elle essaye de réprimer son rire, parce que déjà il y a un côté, elle sent oui. bien que c'est pas très sympa pour cet élève. Elle essaye aussi d'euphémiser en rapportant ça, en disant aux autres, parce que le souci dans la scène, c'est surtout que ça fait rire les autres. Ça les fait rire en partie, et toujours cette ambivalence, les enfants font rire et parfois c'est un peu volontaire, dire des bêtises ou faire le pitre, ils peuvent en jouer. Mais là, en l'occurrence, je sens dans la situation que le garçon en question, il est dépassé par sa réponse et qu'il vit pas du tout bien les moqueries des autres. Il commence à se renfrogner un peu, et là, c'est là que l'enseignante essaye de dire, mais vous savez, tout le monde n'a pas forcément expérimenté la mer. Et là, du coup, il y a une autre qui lève la main en disant, oui, mais moi, quand je suis allé à la plage, à la cano, et là, on voit bien dans ces moments de comparaison implicite ou informelle que les expériences enfantines, elles ont simplement pas la même portée ou la même valeur pour se distinguer dans l'espace scolaire.
Ça dit pas aussi un peu quelque chose du cours dialogué, Alexandre Ribot, quand on pose une question, puisque vous êtes enseignant à la classe, comme ça, et qu'on met des élèves en position de répondre, pas répondre, et qu'on valorise un peu ceux qui ont répondu. Enfin, je dis pas du tout que vous pratiquez comme ça.
Non,
moi, c'est une question que je me pose énormément.
Bah, je trouve que c'est intéressant parce que vous avez d'ailleurs relevé le même passage du livre dans lequel on parlait juste avant d'entrer dans l'émission, parce que c'est effectivement un passage très marquant qui parle finalement plus de pédagogie que d'accès à la nature. Mais effectivement, ce questionnement qui met parfois des élèves en échec et qui peut être finalement assez violent pour un élève de se voir confronté à quelque chose qu'il ne sait pas. Pour revenir à notre sujet, moi ce que je trouve, là où on se rejoint beaucoup entre votre étude et notre pratique de classe dehors, c'est que j'ai toujours tendance à dire aux enseignants qui veulent se lancer, ce qui revient à la même chose, que les enfants, ils vont avoir besoin de temps pour s'approprier le dehors. Ça ne va pas se faire immédiatement, c'est-à-dire que quand vous lancez dans la pratique de la classe dehors, je dis aux enseignants, votre premier objectif c'est que cette séance se passe bien. Parce que pour que ça se passe bien, ça peut prendre du temps. Et ça, il y a des élèves pour qui ça va tout de suite être facile. Ils ont l'habitude d'aller au square, ils ont l'habitude de s'asseoir dans l'herbe, etc. Et puis d'autres pour lesquels ça va être plus compliqué de se familiariser avec l'espace, de ne pas avoir peur de s'asseoir dans l'herbe, etc. Donc ce temps-là, c'est peut-être ce temps du chemin de réajustement entre des élèves qui ont été aidés à connaître la nature et d'autres. Mais il est vraiment très important et c'est vrai qu'on l'observe. C'est-à-dire qu'il faut laisser ce temps pour que tous les élèves se familiarisent et commencer à travailler avec des élèves qui ont un accès un peu voilà, plus similaire. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais...
Ou des élèves qui n'ont pas spécialement l'habitude de se
Exactement.
Trouver dans des espaces
voilà.
dits naturels.
Tout à fait.
Parce que la nature, en fait, ça n'existe pas complètement. Enfin, il y a peu d'espaces non anthropisés, pour sortir un mot savant, en Europe, par exemple, et que du point de vue scientifique, c'est pas complètement un espace naturel, etc.
Oui, bah ça c'est justement, ça fait partie de, on l'évoquait rapidement quand ma première réponse, c'était de dire oui, la nature ou tout ce qu'on met derrière ce terme, parce que c'est un concept qui est pas facile à manipuler. Vous avez accueilli ici Philippe Descola il y a quelques temps, et du coup, je crois que cette question de la frontière entre nature culture, le fait qu'elle est pas évidente et que c'est en soi un marqueur culturel très propre à nos sociétés, par exemple occidentales.
Oui, de dire, pour prolonger cette idée, tout le monde n'a pas lu Descola, c'est que quand on parle de nature, nous, par exemple, dans notre société occidentale, on se met un peu en dehors. Donc, on pratique le naturalisme et on la voit comme un objet et pas comme un espace dont on serait partie prenante. C'est une manière de voir le monde qui diffère de celle, par exemple, des peuples parmi lesquels il a résidé en Amazonie. Je vais un petit peu vite dans l'exemple, mais voilà, c'est aussi nous voir comme à la fois maître et possesseur d'une nature qu'on regarde comme un objet.
Et du coup, en soi, le simple fait de marquer les frontières ou la distinction de ce qui relève de la nature ou de ce qui en relève pas, c'est pas une opération qui est évidente. Ou en tout cas, c'est toujours une opération qui est... mon point de vue, c'est qu'elle est toujours socialement située et qu'elle est aussi révélatrice, c'est-à-dire de qui on est ou de où on parle. C'est-à-dire, y a aussi un naturalisme et une vision de la nature qui serait dominante, canonique. Et en fait, il y a aussi plein de manières d'investir ou de valoriser ce que sont les espaces naturels qui ne sont pas les mêmes d'un milieu social à un autre, qui peuvent être très variables, par exemple, au regard des dispositions genrées, des personnes qui s'approprient la nature.
On va y revenir.
Voilà.
C'est pour ça aussi que La nature à hauteur d'enfant, votre livre, Julien Vitorès, c'est une lecture très très agréable et stimulante. J'ai utilisé ce mot-là au début parce que en fait, on s'interroge sur ses propres pratiques, sur son propre rapport, et si on a des enfants, sur un peu ce qu'on leur dit. Et c'est plein de questionnements. Délia Gobert, je vous ai dit bonjour, mais je vous ai pas encore posé de questions. Donc vous faites partie de ce grand mouvement de classe dehors. Vous emmenez vos élèves à l'extérieur. Moi, j'aimerais bien savoir où, comment. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites ?
Alors moi, j'emmène mes élèves donc de 3 à 5 ans dehors. Notre ville, la ville de Châlons-en-Champagne, nous a prêté un terrain. Donc on a un terrain clôturé et ce qui est très bien, c'est qu'il est laissé à l'état sauvage. Alors je rejoins ce que vous dites tout à l'heure, c'est pas vraiment une nature sauvage. Mais en tout cas, on a vu avec les employés pour qu'ils nous laissent les grandes herbes. Ils font des coupes sauvages, ils nous coupent que quelques chemins. Mais on a des ronces, des orties, on a plein de choses, ce qui permet d'avoir aussi une faune et une flore qui grandit au fur et à mesure sur le terrain. Donc voilà où on va. Donc on est à 500-700 mètres de l'école, qui est une école de centre-ville. Donc une fois par semaine, on y va à pied, donc on s'équipe, combinaison, sur pantalon, chariot avec un goûter, des bâches, des loupes, des documentaires, tout ce dont les enfants pourraient avoir besoin pour observer la nature. Et on part sur la matinée.
Finalement, à quoi ça vous sert ? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus de faire ces sorties par rapport à pas les faire ?
C'est pas si facile que ça de répondre. Je le vois maintenant, surtout en comparant par rapport aux autres classes. Parce que dans notre école, on est 4 classes. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je le fais. Je me suis formée avec l'AGEM. C'est l'Association Générale des Enseignants des Écoles Maternelles. J'ai écouté pas mal de conférences, j'ai lu des livres, etc. Et maintenant, je forme mes collègues et d'autres collègues de la ville. Et on voit nos élèves, mes élèves comparés aux autres en récréation ou sur des sorties scolaires, par exemple, en fin d'année, ils arrivent à être beaucoup plus autonomes dans la nature, seuls. Ils en ont moins peur, ils osent faire des choses sans se mettre en danger. Ça, c'est assez impressionnant, en fait, de voir qu'à 3 ans, 4 ans, ils savent où sont leurs limites quand même. Et alors ça, on le voit dehors. Après, moi, je le vois sur le comportement. Et ça fait maintenant vraiment partie de nos apprentissages. C'est-à-dire qu'on a besoin de sortir pour le climat de classe, eux comme moi maintenant. Et les parents le disent aussi. Parce que je garde mes élèves 3 ans, donc mes grandes sections font ça depuis 3 ans, une fois par semaine. Et j'ai des parents qui viennent me voir et qui me disent « Mais vous vous rendez compte, le week-end, ils veulent sortir, même quand il pleut. » Mais je disais « Très bien, allez-y avec eux. » Les parents me disent aussi qu'ils observent beaucoup plus, qu'ils sont beaucoup plus attentifs aux petites choses, qu'ils posent énormément de questions. Donc ça joue sur tout ça, sur leur comportement en général. Je suppose, on ne peut pas savoir, mais plus tard, quand ils seront plus grands, voire adultes, ils prendront plus soin de la nature, puisqu'on dit toujours que c'est en connaissant les choses qu'on apprend à plus les protéger. Je pense que ça, il y a grand besoin de protéger la nature. Et après, au niveau scientifique, clairement, ils apprennent beaucoup mieux, ils retiennent surtout mieux, parce qu'on vit les choses. C'est-à-dire qu'on observe vraiment le petit arbre pousser, la plante pousser, et une semaine après, on voit qu'elle a fané, et après, on voit qu'il y a les graines qui tombent, etc. Les arbres, on les voit vraiment vivre tout au long de l'année. On ressent vraiment le froid. En ce moment, il fait très froid chez nous, donc on ressent vraiment le froid, mais on ressent aussi vraiment le chaud. Enfin, voilà, c'est plein de choses qu'on peut leur expliquer. On peut faire pousser des graines de haricots dans nos classes, mais ce sera jamais la même chose que de le voir en vrai.
Et évidemment, quand je vous écoute, ça me plaît. J'ai envie de venir avec vous. J'ai envie que tous les enfants aient accès à ce genre d'expérience. Au-delà de la nature, Alexandre Ribouf, qui est également enseignant et formateur pour la classe dehors, c'est l'idée de liberté et d'autonomie des enfants, qui est une idée pédagogiquement assez située aussi, qui peut finalement s'épanouir à l'extérieur. On fait des choses qu'on peut moins faire en classe, moins bien faire en classe.
Oui, il y a plein de choses dans ce qu'on a été dit. Je voudrais juste revenir sur les propos qu'on vient d'entendre. C'est bien fait sur la pratique de la classe dehors. Ils sont connus, reconnus, archidocumentés scientifiquement depuis des décennies. La classe dehors, c'est une pratique qui va améliorer la santé des enfants, la santé psychologique, les compétences psychosociales, les liens entre les enfants, avec aussi beaucoup de bienfaits sur les apprentissages. Donc il y a plein de choses qu'on observe, comme cette enseignante, quand on sort avec sa classe. Les points fondamentaux, c'est vraiment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce sentiment de liberté qu'on offre aux élèves, On a l'impression, parfois en tant qu'enseignant, que les autoriser à jouer avec un bâton, c'est une liberté qu'ils n'ont jamais eue, même avec leurs parents. Ils ont le droit de jouer avec un bâton, ils ont le droit de se rouler dans l'herbe. Et c'est vrai que ce sentiment de liberté, c'est aussi comme si on leur donnait une énorme confiance. On a confiance en eux, et donc ils vont avoir confiance en eux-mêmes. Voilà, ça c'est vraiment un élément important. L'autre élément fondamental, c'est que c'est un moment que tous les enfants aiment, la classe dehors. Et ça paraît un peu anodin de dire ça, mais faire aimer un moment de classe à tous les élèves, ça veut dire que l'enfant qui n'aime pas la classe, il aime ce moment-là, donc quelque part on réconcilie avec la classe. Et ça, c'est, je trouve, rien que pour ça, c'est fondamental de le faire. Parfois, c'est le sport qui joue cet aspect-là. Et puis le troisième point dont je voulais évoquer, c'est effectivement la richesse des apprentissages. Quand on sort avec sa classe, on parlera juste après un peu des élémentaires, parce qu'on parle beaucoup de la maternelle, mais moi je...
Mais c'est plus le livre de Julien Vitorès, mais oui, allez-y, voilà, moi ça m'intéresse de parler des plus grands.
Quand on sort avec sa classe, on se rend compte à quel point la nature propose une infinité d'opportunités d'apprentissage. Et il suffit de piocher dans l'envie des enfants pour se dire, ah ben tiens, là, il a classé les feuilles par couleur, on va travailler là-dessus, on prend en photo discrètement et puis on va travailler là-dessus sur les objets en classe et puis la prochaine fois, on les classera par taille, par forme. Voilà, tous les apprentissages sont dans la nature. Voilà, il suffit d'ouvrir ses yeux, de les laisser jouer et souvent, ça vient comme ça avec un peu d'aide et un peu guide l'enseignant qui est très utile quand même à ça, et qui est à sa place.
Julien Vidoret, si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, parce qu'il y a des séquences dans le livre, des scènes qui sont décrites avec des bâtons aussi, ce que font les enfants. D'ailleurs, la liberté, ce n'est pas forcément aussi évident à gérer pour les professeurs qui les accompagnent.
Oui, en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a toujours, comme vous l'avez dit, dans plein de pédagogies, et pas que dans les pédagogies du dehors, depuis longtemps, depuis le 19e siècle, une valorisation de l'autonomie enfantine, des occasions de découverte libre, curieuse, et de l'épanouissement de l'enfant au gré de ses découvertes. Le seul, j'allais dire, c'est là où les sociologues, on a souvent la sensation d'être un peu les rabat-joie de service, mais c'est que la liberté qui est confiée aux enfants, c'est aussi une liberté ou une autonomie dont les enfants ont plus ou moins l'habitude dans leurs expériences personnelles. Et là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas qu'une question de rapport à la nature, c'est plus largement des choses qui ont été documentées dans la sociologie de l'éducation, dans la petite enfance. Et que les styles éducatifs parentaux valorisent là aussi plus ou moins le fait de avoir la possibilité de régulièrement poser des questions, d'avoir un adulte disponible pour répondre à ces questions.
D'avoir de l'intérêt, en fait, pour ces questions et pour ces expériences enfantines.
Voilà. Et du coup, évidemment, ce que vous disiez, c'est que dans un contexte où les enseignants ont la possibilité, le temps d'accompagner les enfants, ils peuvent tout à fait socialiser, de fait. C'est une instance de socialisation à part entière que l'école. C'est pas garanti que cette liberté, elle occasionne ce qu'on attend qu'elle produise. Notamment parce que dans leur, par exemple, la liberté, c'est, vous le disiez, la liberté de jouer, les enfants, quand ils jouent, ils reproduisent des choses aussi qu'ils ont déjà intériorisées. Et par exemple, la question des rapports de genre, par exemple, et de comment est-ce qu'ils jouent avec un bâton, qui joue à quoi, etc., se repose et se rejoue dans les moments de libre exploration ou d'appropriation non contrainte de la nature. Donc moi, c'est une question que j'ai rencontré plusieurs fois, des enseignantes ou des éducateurs, éducatrices, confrontés un peu à cette question de « oui, bon, on les laisse librement jouer, mais on voit bien que les garçons et les filles ne vont pas jouer aux mêmes choses ». Du coup, moi, c'est aussi d'interroger les liens entre socialisation scolaire et socialisation familiale, parce qu'il y a des choses qui se jouent déjà en amont, quoi.
Et ça marche avec plein de choses, la littérature, on en parlait il y a peu dans l'émission, les mathématiques, la vie étant genrée, nos représentations étant genrées, ça fonctionne. Et on va continuer sur cette question du genre, parce que vous l'expliquez bien dans le livre, les filles et les garçons ne s'approprient pas forcément de la même manière les espaces naturels. On est plutôt du côté du soin et des petites fleurs, en gros, chez les petites filles, je vais vite, mais c'est un peu ça. Et il y a un côté arrachage chez les garçons, pas tous les garçons, mais ça peut être aussi valorisé par les parents, vous le racontez, même comme disent les écoféministes, une position de prédation des garçons dans les espaces naturels, chasser, prendre, arracher. Est-ce que c'est quelque chose, je vais revenir vers Delia Gobert, que vous observez dans les comportements des élèves et qu'est-ce que vous en faites ?
Eh bien en fait, ça dépend vraiment. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le genre. ça dépend vraiment des enfants et c'est ce qu'on disait au début de l'émission avec le rapport qu'ils ont avec la nature. C'est-à-dire qu'on va avoir des enfants qui vont être très calmes, voire qui me collent pendant tout le temps et qui n'osent pas s'éloigner de moi parce que bah, y a du bruit, il y a des herbes hautes, parce que c'est un terrain inconnu. Et là, quel que soit le genre, en fait, fille, garçon, il y en a toujours un ou deux qui restent collés à moi pendant des semaines avant d'oser s'aventurer. Alors, moi, je ne vais pas particulièrement parler du genre, mais les comportements diffèrent selon les enfants. C'est vrai que souvent, les premières séances, ils se mettent à courir partout. Ils courent, ils crient, en fait, mais comme une cour de récréation. Et ça, je voulais intervenir avant, là, vous parliez de la liberté. C'est vrai que ce jeu libre est tant libre, il en faut en nature, comme il en faut aussi dans la classe, en fait, hein, des temps de jeu libre pour qu'ils puissent prendre en main leurs propres apprentissages, font assez peur aux enfants, mais aussi aux enseignants qui vont faire classe dehors pour la première fois, parce qu'on se dit, ils font que courir. Ils font que courir, ils font que sauter, que grimper aux arbres, jouer avec des bâtons s'ils n'ont pas le droit de le faire avec leurs parents. Et en fait, petit à petit, ils vont se réguler, ils vont apprendre. Et là aussi, c'est ce que disait Alexandre, c'est là que notre rôle est important. C'est que nous, on va mettre en avant une situation qu'on a pu observer. On va dire, tiens, tel enfant, qu'est-ce que tu as regardé? Je t'ai vu observer des choses pendant longtemps, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu as couru, mais j'ai vu que tu essayais de sauter par-dessus un trou. Où tu as couru et glissé dans la boue, parce que c'est super de glisser dans la boue. Donc voilà, en fait, on va mettre en avant quelques actions. Alors des fois, ça va être des actions très posées, très calmes, plutôt dans l'observation de la nature ou la construction de choses. Mais ça peut être, et avec nos jeunes élèves, ils en ont besoin, des actions motrices aussi. Nous, par exemple, on a un arbre qui est un petit peu penché sur le terrain, donc qui est assez facile pour escalader. Et ils se sont mis comme objectif d'aller toucher une branche un peu plus loin, qui est plus difficile. Donc là, c'est devenu un défi sportif. Et on va chercher comment faire. Ceux qui arrivent expliquent comment ils font. Et je pense que ce qui est important, c'est de mettre en avant ce qui se passe sur le terrain et surtout de faire le lien en revenant en classe. C'était avec les actions qu'on a vues, avec les questions qu'on s'est posées, on va faire des recherches. La fois d'après, on remettra en avant ce qu'on a vu dehors, mais ce qu'on a appris dedans. Et ça, je pense que c'est vraiment, après plusieurs années de classe dehors et avec les formations que je peux animer, le point important, je trouve, en tant qu'enseignant, c'est de vraiment faire le lien entre les actions qu'ils font dehors et ce qu'on peut en tirer dedans.
Alexandre Ribaud, je suppose que vous serez d'accord.
Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense que le jeu libre, si vous ne l'avez pas déjà fait, Louis, ça mériterait une émission à part entière. C'est absolument passionnant, la notion de jeu libre et tout ce qui peut en sortir.
C'est une émission assez ancienne sur des jeux libres installés dans les cours, particulièrement pour la récréation du midi. Vous me demandez, je réponds.
Et ça permet
de faire baisser le niveau, par exemple, de nervosité des enfants, voire la violence dans l'école. Parce que quand on a des objets pour jouer, on est moins violent entre enfants et que parfois les enfants s'ennuient un petit peu dans les cours d'école et retournent cet ennui vers des comportements les uns envers les autres qui ne sont pas toujours hyper sympas. Donc le jeu libre, ça, c'est pas mal déjà pour ça et pour plein d'autres choses.
Le jeu libre, c'est passionnant. Moi, c'est vrai que pendant 4 ans avec ma classe de maternelle, c'est ce que j'ai fait essentiellement, c'était du jeu libre. Le jeu libre, un, c'est inscrit dans les programmes de maternelle depuis 2015. Deux, c'est un temps de l'enfant qui est absolument indispensable pour sa construction. Trois, c'est un temps que l'enfant n'a plus aujourd'hui parce qu'ils ont des emplois du temps de ministre ou alors ils ont une tablette ou ils ont les deux. Et trois, c'est un temps dans lequel il y a beaucoup d'apprentissages qui vont être possibles et beaucoup de bienfaits. C'est-à-dire qu'on dit souvent la classe dehors, tiens, ça augmente la confiance en soi, ça augmente la coopération. Mais je crois en fait plus que c'est le jeu libre qui va augmenter la confiance en soi. On vient d'avoir l'exemple, hein, elle vient de le dire, Déborah. Pour revenir sur son exemple, c'est un enfant qui va se donner son propre défi. Tiens, j'ai envie de grimper à cet arbre parce qu'il est penché, que je peux le faire et que j'ai vu mes copains le faire. Il n'a pas de consigne de l'adulte qui lui dit « Tiens, vous allez tous vous mettre en file indienne et vous allez grimper. » Il s'est choisi son propre défi. Le moment où il va réussir ce défi, il va rater 14 fois parce que c'est compliqué de grimper sur cet arbre. Mais le moment où il va réussir ce défi, là, il gagne vraiment confiance en lui. En fait, il s'est créé son propre défi, il s'est autorisé l'erreur. Et là, il gagne de la confiance en lui.
Tous les parents n'ont pas cette idée que, un, la liberté, c'est bien, deux, l'autonomie, c'est productif, trois, on va vraiment laisser les enfants dans le parc à un endroit où on ne les voit pas,
Mais bien sûr,
c'est beaucoup plus sécurisant.
C'est très compliqué. C'est très compliqué comme pratique pour les parents comme pour les enseignants. Je veux dire, ça demande un lâcher prise très important de la part de l'enseignant. Ça demande une grande maîtrise parce que tout d'un coup, effectivement, comme vous le dites, il y a des élèves qu'on ne va pas voir et on ne peut pas surveiller 25 élèves en jeu libre. Et ça commence souvent par un temps où les élèves sont en train de courir un peu dans tous les sens. On a l'impression qu'ils perdent leur temps. Bon, après, il y a plein de stratégies pour faire que ce temps soit plus court. Si on veut qu'il soit plus court, est-ce que c'est une perte de temps de courir, je ne sais pas, de leur demander, par exemple, là, on va faire un temps d'exploration, où vous allez partir un par un pour observer des choses, en leur donnant une contrainte, qui dit explorer, dit pas forcément courir, etc. Et puis vous nous rapporterez quelque chose d'étonnant, par exemple, dans quelques minutes. Voilà, il y a aussi des choses pour... des stratégies, en fait, pour éviter ce moment de récréation, si vous voulez. Mais c'est un temps qui peut vraiment être passionnant, voilà. Qui s'applique quand même plus à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire. À l'école élémentaire, on a encore plus de mal à faire du temps libre, même si ce serait indispensable aussi pour ces élèves-là.
Parce que les programmes sont...
Parce que les programmes, on a besoin d'avancer dans les programmes.
Julien Vitorès, je ne sais pas si vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots, mais la question maintenant, c'est, puisque on voit le jeu libre, c'est quand même un style éducatif qui appartient à certaines catégories sociales. Allez, la mienne, les gens qui auraient des professions intellectuelles, pour ce que ça vaut... Est-ce que c'est le travail de l'école que de mettre en pratique les modes pédagogiques, les modes de relation à l'enfant des dominants, pour le dire hyper vite et pour utiliser des termes sociologiques?
Alors, ça renvoie à plein de discussions, je dirais, où les collègues peut-être même de sciences de l'éducation, comme Stéphane Bonnery ou d'autres qui ont travaillé spécifiquement sur les questions de l'apprentissage, auraient des réponses plus tranchées que la mienne. C'est ce que j'essaye de dire un peu dans la conclusion de
l'ouvrage. Mais c'est bien pour ça que je pose la question.
Je me garderai bien de dire ce que l'école devrait faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que, la question c'est celle de savoir si l'école peut garantir à tous les enfants des conditions d'apprentissage égales, ça supposerait plusieurs choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, le temps long et les moyens, c'est-à-dire le fait que les enseignants puissent les accompagner régulièrement, puissent être disponibles pour accompagner tout ce travail de guidage, d'étayage, d'accompagnement de la curiosité, d'orientation de l'attention, faire des allers-retours permanents entre ce que les enfants découvrent et ce qu'ils vont apprendre. En fait, c'est quelque chose qui se fait de manière un peu évidente dans plein de contextes éducatifs familiaux. Et du coup, le travail de l'école, il est pas plus que doublé, il est fois 20, puisque un enseignant se retrouve avec un gros groupe classe. Et du coup, mon idée, ce que je dis en conclusion, c'est que si on veut donner de grandes responsabilités à l'école dans le fait de corriger ou de prendre en charge certaines de ces inégalités, que ce soit des inégalités de connaissances sur le monde naturel ou des inégalités d'accès à ces bienfaits, ça suppose des moyens. Et les moyens, je me doute que pour les enseignants, c'est aussi ne pas avoir d'entraves, mais avoir aussi la possibilité de prendre le temps, d'être soutenu, d'avoir les moyens de... Parce que du coup, d'avoir des accès à des espaces aménagés. Il y a plein de conditions qui vont pas de soi dans le fait que puissent être garantis pour les enfants certains types d'expériences qui sont pas les expériences de tous et toutes dans leur quotidien personnel. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
quiet singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Blackbird, l'album blanc des Beatles en 68, c'était leur période de studio. On est néanmoins dehors avec ce chant d'oiseau. Et si j'ai choisi cette chanson, c'est parce qu'on parle de l'enfant, de l'école et de la nature dans cette émission avec pour support principal le livre de Julien Vitorès, La nature à hauteur d'enfants. Et je voudrais revenir avec vous et les enseignants qui sont aussi nos invités sur le propos aussi majeur de ce livre. La nature, c'est un objet de distinction. Et ça, les enfants le comprennent très, très, très bien. Mmh. Et très, très jeune, très, très petit, donc c'est une enquête sociologique en maternelle, ils voient bien que c'est valorisé. Et ça introduit l'idée que l'école, c'est un jeu assez subtil entre des représentations des savoirs et des enfants qui, même petits, se les approprient plus ou moins. Alors, on peut commencer par prendre l'exemple de la pleine nature. Vous avez parlé d'une école dans l'Ouest parisien, c'est une école privée assez bourgeoise où les enfants ont un accès à la nature et pour eux, la nature, c'est vide.
Oui, c'est quand je leur demande de me dessiner la nature ou que je leur demande de commenter des représentations d'espaces naturels, c'est arrivé que certains enfants, enfin c'est l'enseignante qui est venue me voir en me disant et donc là en fait il m'a dit que c'était pas vraiment la nature ce que t'avais montré parce qu'il y avait des gens dessus et donc ça a témoigné hein, de cette construction précoce d'un regard sur la nature sauvage justement comme une nature qui soit éloignée de l'urbain du monde social ordinaire. Et les expériences de nature comme des expériences dans lesquelles on a la possibilité de se couper du monde justement et de se mettre à distance.
Ça c'est vraiment aussi une représentation très contemporaine, je pense, même si je vois en vous parlant des images à la Châteaubriand devant la mer tout seul. Mais aussi pour certaines personnes, par exemple ceux qui vivent dans le sud, près des vignes, la nature c'est le travail. Mmh. Et donc c'est là où on travaille, donc on n'a pas forcément envie d'y retourner le week-end avec ses enfants.
Du coup, oui, c'est dans les discours qui sont portés sur la nature dans ces différents contextes peuvent être très différents. Et ce qui est intéressant, quand vous disiez la nature, c'est un support de distinction au sens de la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est aussi un marqueur qui permet aux gens de s'identifier ou de percevoir d'autres groupes sociaux. C'est-à-dire leur rapport à la nature, c'est quelque chose qui permet de les classer. C'est par exemple le cas de ce père qui est technicien forestier, qui... Pendant qu'on fait l'entretien dans son jardin, son fils est en train de pêcher au fond du jardin, sa fille fait un petit hôtel avec des fleurs pour les escargots. Donc c'est une sorte d'évidence que oui, ils jouent dehors, ils ont plein de choses à faire. Et ce père-là, quand je lui dis, le week-end, du coup, vous allez en forêt, parce qu'il y a la forêt pas loin, ou vous avez des activités de ce type, il me dit, vous savez, les arbres, moi, je les vois toute la semaine au boulot, donc le week-end, non, c'est bon, on est bien, on est à la maison, on a le jardin, on regarde un film à la télé, on est bien. Donc ça contraste avec le discours assez logiquement en fait qui est très idéalisé de personnes pour qui la nature c'est quelque chose qui permet de sortir de son quotidien justement.
Et pour d'autres parents encore, on revient à Paris mais dans un quartier plus populaire, des parents par exemple issus de l'immigration, c'est plus compliqué de vous répondre parce que ils ont envie de dire que la nature c'est bien mais déjà peut-être comprennent-ils moins bien où vous voulez en venir? Parce que déjà, répondre à un sociologue, ce n'est pas forcément évident. Et ils ont envie de vous donner une bonne réponse sans trop bien savoir ce que vous attendez et ce qui serait le mieux, en fait, pour leurs enfants.
Oui, et parfois, il y a le pressentiment quand même. Je le sens dans les entretiens que, déjà, d'une, j'arrive avec mon sujet. J'arrive en ayant fait passer un mot dans le carnet en disant « Je veux rencontrer les parents pour parler du rapport à la nature des enfants. » Et ce qui, en soi, installe et confirme quelque chose que je sens ces parents pressentent, c'est que la nature, c'est une thématique valorisée. C'est quelque chose de bien. Et beaucoup me disent, oui, on aimerait bien faire découvrir aux enfants. On sait que c'est bien, on sait qu'il faut le faire. Mais du coup, souvent, ça se traduit par des formes de mauvaise conscience presque éducative où les parents s'excusent auprès de moi de ne pas en faire assez ou essayent de me dire ce qu'ils aimeraient faire mais n'ont pas encore l'occasion ou le temps de faire. Et à mon avis, c'est révélateur de cette légitimité scolaire de la nature et des thématiques problématiques autour de la découverte enfantine de ces espaces. Et là où c'est intéressant, c'est justement qu'on voit aussi jouer les rapports entre fractions de classe, y compris au sein des classes populaires. Par exemple, dans ces familles de classes populaires immigrées dans le nord de Paris, il y a quand même plusieurs mères, notamment, qui sont relativement dotées en capital culturel, qui sont diplômées, qui n'ont pas forcément en France l'emploi qu'elles auraient eu dans leur pays d'origine, et qui ont une connaissance, ou en tout cas qui sont assez familières des attentes scolaires, et qui tracent une sorte de distinction comme ça en disant « Oui, mais moi, mes enfants, ils s'intéressent à ça, pas comme les autres, sous-entendu, les autres enfants dans les mêmes situations, ceux qui vivent parfois à proximité, les enfants des voisins, sont présentés comme ayant peu d'intérêt pour ces questions de nature, à la différence de ce que porte leur pratique éducative. »
Donc, ça pose. Bah, vous voulez prendre la parole, Alexandre Ribot. Ça pose des vraies questions sur le fait de véhiculer des standards. Par exemple, la nature, c'est bien à l'école. De même, sur les petits gestes de l'environnement, c'est dans le projet de loi aussi, sensibilisation à l'environnement. Ça aussi, c'est hyper socialement situé. C'est triste, mais c'est comme ça. Trier ses déchets d'une certaine façon, c'est avoir le temps de le faire. C'est une bonne pratique, en fait. On répond à un certain standard qui est celui de sa catégorie sociale.
Oui, sans doute. Après, pour l'avoir observé avec mes élèves, c'est quelque chose qui, sur le tri des déchets, par exemple, le nettoyage des squares, c'est quelque chose qui se transmet très vite. Je veux dire, l'enfant, il n'a pas besoin d'avoir un poster pour savoir qu'est-ce qui est un déchet, pas un déchet, et voilà. Mais je voulais faire réagir Julien sur, en fait, l'observation que j'ai eue, moi, en faisant classe dehors. J'exerçais dans une classe du 19e, côté de la Porte d'Aubervilliers, donc en REP, en zone d'éducation prioritaire, donc avec un public plutôt varié, mais quand même plutôt pas trop privilégié, quoi. Et le sentiment que j'avais, je ne sais pas s'il ne va pas à l'encontre un peu de ce que vous avez observé, c'est que finalement, la classe dehors, c'était aussi un moment où on pouvait rabattre les cartes d'une certaine inégalité sociale. Alors, j'ai l'impression de dire le contraire de votre livre, mais vous allez me dire si... Parce que, par exemple, l'enfant qui est en échec dans la classe, qui ne sait pas écrire son prénom, par exemple, en maternelle, ça va être l'enfant qui n'a pas de problème pour tenir un verre de terre dans la main, pour escalader l'arbre, qui va proposer plein de choses, parce que finalement, il est dans un élément qui lui correspond, enfin, je ne sais pas si ça lui correspond plus. Voilà, et c'est aussi la raison pour laquelle on a ouvert cette école dehors dans le 18e. Le maire du 18e, il était attaché à cette notion. On va rabattre les cartes d'une certaine inégalité sociale, où dehors, il y a moins d'enfants en échec. Et est-ce que je dis le contraire de votre livre ou est-ce que...
Non, après, c'est à nouveau, mon livre ne porte pas sur des formats qui font de l'école dehors, qui mettent l'école dehors au cœur de leur projet éducatif. Donc, moi, la question porte plutôt sur les enjeux d'apprentissage et donc, du coup, sur la question de ce que l'école valorise comme connaissance, par exemple, sur la nature. Ce qui est évidemment autre chose que ce qu'on fait quand on joue librement dans un espace naturel ou simili-naturel. Mais simplement, sur cette question... je dirais que c'est assez, justement, c'est un point intéressant avec la question du jeu libre ou des moments d'expression, c'est que, au fond, dans la littérature sociologique, l'idée de jeu libre, par exemple, elle est à la fois très valorisée dans les fractions culturelles des classes supérieures, mais elle peut être prise avec beaucoup de précautions dans les classes supérieures du pôle économique, avec l'idée que non, l'éducation, c'est aussi être strict, apprendre, pas perdre de temps, etc. Et avec une vision qui n'est pas complètement fausse des classes populaires où la possibilité de jouer, de s'exprimer complètement quand on est dehors et de ne pas se prendre la tête avec des questions d'apprentissage, c'est aussi quelque chose qui peut avoir une sorte d'évidence dans certains milieux sociaux. Toute la question, moi, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe quand on scolarise ? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au moment où revient l'enjeu de l'apprentissage ? Voilà.
Parce que la scolarisation, c'est faire porter à l'objet du dehors ou de la nature un enjeu qui le dépasse, un enjeu peut-être où on pourra porter des jugements non plus de valeur, mais scolaire, par exemple avec des évaluations. Si on parle de l'école élémentaire, ben là, on va en faire davantage. Des enjeux de bonne connaissance. Et ça, pour les élèves, ça peut jouer de manière tout à fait différente, encore une fois, entre les filles et les garçons, entre différentes classes sociales, entre différents individus aussi, parce qu'il y a des différences inter-individuelles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de scolariser ? Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez les choses, Alexandre Ribot.
C'est vrai que je ne l'ai pas abordé tout à fait comme ça. Alors, je l'ai abordé comme ça avec ma classe. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de jeux libres. Mais de plus en plus, j'aborde le dehors comme une question. C'est est-ce que la salle de classe est vraiment le meilleur endroit pour faire cours et pour apprendre ? Et peut-être que la meilleure salle de classe, c'est d'avoir de l'espace et d'avoir la liberté de mouvement. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de transmettre de plus en plus, et notamment aux enseignants des classes élémentaires, donc pour les plus grands, c'est de dire à ces enseignants, vous allez commencer par faire dehors la même chose que vous faites dedans. Mais par contre, à un moment donné, vous allez faire le quart d'heure lecture, par exemple, qu'on fait dans, quand même dans beaucoup d'écoles de France. Vous allez commencer par faire la même chose. Comme ça, vous proposez une activité que vos élèves connaissent et que vous aussi, vous connaissez et vous avez l'impression d'avancer dans votre programme, etc. Mais au bout d'un moment, vous allez dire à vos élèves, bah, en fait, on est tous dehors, on pourrait tous lire à voix haute. On ne se dérange pas les uns les autres. Et puis, vous pouvez lire en marchant et on va leur laisser la possibilité de mouvement. Et ça va être la même chose avec des dictées, avec des mathématiques, où tout d'un coup, on va offrir du mouvement qui va donner aux enfants une sensation de bien-être et de liberté, parfois une aide à la mémorisation. Je prends un exemple, si je fais des dictées en mouvement, que je montre un mot à un élève et qu'il doit l'écrire 20 mètres plus loin sur son ardoise, bah c'est 20 mètres qu'il fait en se souvenant du, en essayant de se rappeler de mots comment il est écrit. C'est 20 mètres de pur moment de bonheur et c'est 20 mètres qui favorisent la mémorisation. Donc moi, c'est ces choses-là qui m'intéressent dans le fait d'être dehors, c'est qu'on peut laisser du mouvement et ce mouvement, il est indispensable à l'apprentissage.
Oui, mais aussi, vous allez dire que je vous embête, mais oui. Scolariser un objet, c'est aussi le condamner à être associé à des souvenirs, des expériences pas forcément heureuses pour les enfants. On sait qu'on s'arrête souvent de lire à l'adolescence, particulièrement les garçons. Être à l'école, c'est de toute façon être jugé. On ne peut pas s'abstraire de ça. Ce n'est pas du tout un espace neutre, l'école. Donc, les expériences qu'on va faire à l'école, on va en retirer quelque chose qui va peut-être induire des comportements plus tard, mais qui ne sont pas forcément positifs. Ce serait bizarre de penser que parce qu'on lit des super albums en maternelle et qu'on lit à l'école élémentaire, on va devenir un lecteur au collège. C'est ce qu'on espère, mais on voit bien que ça ne marche pas. Est-ce que ça pourrait arriver à la nature?
J'ai envie de poser la question à Julien plutôt là.
Ah bah non, mais du coup, je vais botter en touche, notamment parce que là, les exemples que vous avez pris porte justement sur ce qu'il advient après l'école maternelle. Et je dirais que modestement, mon livre porte déjà sur qu'est-ce que sont devenus ces enfants au bout de 5 ans de vie et dont souvent 3 ans de scolarisation pour les enfants de grande section. Mais j'aurais pas la prétention de décrire précisément comment s'articulent ces premières socialisations avec les socialisations scolaires ultérieures et a fortiori avec l'enjeu de l'adolescence et du collège qui soulèvent encore plein d'autres enjeux dans la question de la construction du genre et dans le rapport aux apprentissages. Et là, il faudrait inviter d'autres experts que moi, je pense.
Moi, j'ai peut-être un exemple, Alexandre Rigaud, à ce sujet. Je ne sais pas si ça va répondre exactement à votre question, mais j'avais beaucoup de... Donc moi, je sortais avec ma classe de petits et moyens. On sortait dans un square de la Porte d'Aubervilliers. C'était un square dans lequel il y avait une aire de jeu dans lequel les enfants allaient le soir, en fin de journée souvent. Mais nous, évidemment, pour la classe dehors, on avait choisi à l'autre bout du square, qui était l'endroit un peu sauvage, etc. Et j'avais beaucoup de témoignages en fin d'année de parents qui me disaient, en fait, quand on va maintenant au square, l'enfant, il ne veut plus aller à l'aire de jeu, quoi. Il veut aller là où vous faites classe dehors. Et puis, il ne me demande rien, il prend un bâton et il va jouer pendant 2 heures. Il n'est pas du tout dans cette quête de consommation, achète-moi un ballon, etc. Machin. Donc, je pense qu'on fait quand même une expérience positive. Alors, quelle trace elle va laisser, je n'en sais rien, mais j'imagine que c'est une vraie expérience positive qui, quand même, en un an, on voit vraiment la modification sur les élèves. Donc, j'imagine, j'ose espérer que ça laisse des traces pour les plus grands.
Delia Gobert, professeure des écoles en maternelle, vous pratiquez la classe dehors et vous vouliez réagir.
Oui, c'était par rapport à scolariser la nature, en fait, comme un objet. Et l'idée, voilà, après que plus tard, est-ce que ça peut avoir des jugements ou des impacts négatifs? Je pense que ce qui est intéressant avec l'école dehors, en fait, ça facilite le plaisir d'apprendre. Et on en parlait, en fait, c'est parce qu'il y a ce temps de jeu libre, parce que ben, les enfants ont peut-être aussi moins peur d'aller vers la nature, d'observer, de se lancer des défis. Après, ça va être à nous de transformer ces défis en apprentissage. Mais moi, ce que j'observe avec une pratique maintenant depuis plusieurs années, c'est que les enfants qui ont un peu peur en classe de se lancer des défis très scolaires, écrire son prénom, réussir à faire des calculs, même faire un jeu de construction, enfin des choses comme ça, vont plus oser les faire dehors. Après, ce qui est intéressant pour eux, c'est que c'est ben, eux qui ont commencé leur apprentissage. Par exemple, c'est un enfant qui va observer un ver de terre. Et tous ensemble, on va observer ce ver de terre, on va chercher dans des documentaires comment est-ce qu'il avance, qu'est-ce qu'il mange, enfin, où est-ce qu'où se trouve la tête, où se trouvent les fesses. C'était une question qu'on avait eue l'année dernière. Je n'ai pas su répondre, donc j'ai dit on va chercher ensemble. Et j'ai vu cet enfant, en fait, qui en classe n'est pas très à l'aise, et ben, avoir les yeux qui brillent parce que grâce à lui, on a tous appris quelque chose, même la maîtresse. Et je suppose même ses parents. Et donc voilà, peut-être que l'intérêt et aussi le côté positif de l'école dehors, c'est que ça va changer des postures. C'est ce que disait Alexandre. En fait, ça rebat les cartes sur la réussite à l'école, mais aussi sur la confiance en soi et aussi, du coup, sur la vision qu'ils ont de l'apprentissage. Et moi, je pense que c'est important en maternelle de leur donner cette envie d'apprendre par eux-mêmes. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans la classe. On n'apprend pas pour la maîtresse, on n'apprend pas pour les parents. On apprend pour soi. Et l'école dehors, en tout cas, ça, je trouve que ça facilite cet engagement dans les apprentissages pour les jeunes élèves.
On le redit, hein, Julien Viterès, votre livre ne porte pas sur l'école dehors ou l'école dans la nature, mais davantage et complètement sur le rapport des élèves de maternelle avec la nature, la manière dont on leur en parle dans des classes classiques, entre guillemets. Alors, il y a un chapitre qui m'a beaucoup plu, c'est celui sur les animaux. Mmh. Et vous utilisez un jeu de cartes, vous allez nous expliquer, et les élèves classent leurs animaux préférés. Et ça permet d'avoir un accès assez génial aux représentations des enfants. Mmh. En fait, la maternelle, les élèves de 5 ans, c'est super, parce qu'ils sont assez francs, ils disent ce qu'ils pensent, ils vous l'expliquent. Et on voit que, bah, suivant qui on est dans la vie, on aime davantage le lion. La souris, bon, c'est un rat, mais les gens apparemment voient les élèves voient une souris, le renard, etc.
Oui, donc ce jeu de cartes sur lequel je m'appuie dans le dernier chapitre, je l'ai constitué en hommage ou en m'inspirant de jeux de cartes sociologiques qui avaient été mis en place d'abord dans les années 80 par les sociologues Luc Boltanski et Laurent Thévenot et qui ont été déjà remobilisés pour étudier les perceptions enfantines de l'ordre social par Wilfried Ligné, qui était mon directeur de thèse,
et Julie Pagis.
Exactement.
C'est un super livre sur la socialisation politique.
Exactement.
Des enfants et leurs représentations.
C'est ça. C'était sur la construction des représentations que les enfants ont du monde social, de ces hiérarchies et de la manière de se situer à l'intérieur de ce monde social, ne serait-ce que par leur perception des métiers, les métiers qu'ils aiment bien, les métiers qu'ils n'aiment pas. Et moi, du coup, j'ai essayé de faire quelque chose d'analogue sur le monde naturel en leur proposant d'abord un jeu de cartes avec des animaux. J'en avais un autre sur les choses qu'on peut trouver dans la nature avec des pommes de pin, des fleurs, des cailloux, des bâtons. Et l'idée, c'était de les interroger sur qu'est-ce qu'ils connaissent de ces choses que je leur présente, qu'est-ce qu'ils aiment bien, lesquelles sont leurs préférées, et pourquoi ils les aiment bien. Donc d'essayer de creuser un peu les raisons de ces préférences et à quoi ils les associent. Est-ce qu'ils les ont déjà, pour les animaux, vus en vrai, pour les choses naturelles, est-ce qu'ils en ont déjà trouvé dans leur sortie, etc. Et ces jeux de cartes, ça me donnait l'occasion de leur faire un moment de jeu qui était en fait un questionnaire déguisé, un petit peu en quelque sorte, parce que je pouvais faire le même jeu avec tous les enfants. Et c'était intéressant de voir les enfants expliquer pourquoi ils aiment ou n'aiment pas donc les animaux ou les choses qu'on peut trouver dans la nature. C'est à la fois très révélateur de la construction d'identité sociale qui sont distinctes et distinctives selon la classe et selon le genre. Par exemple, les oppositions sont très nettes dans les réponses des enfants entre les animaux préférés des filles et ceux des garçons. Vous avez évoqué d'un côté le lion, qui est un des animaux les plus cités par les garçons comme leur animal préféré, ou en tout cas dans leur top 3, des trois animaux déclarés comme préférés. Et quand je leur demande pourquoi, les motifs qui reviennent souvent, c'est pour sa force, parce qu'il est très poilu, parce qu'il a une crinière, parce que selon les contextes, ça peut être, il sait se défendre, il sait attaquer, il peut faire ce qu'il veut, c'est lui le chef. Bref, toute une série de valeurs et de représentations associées à l'exercice du pouvoir et la masculinité, en quelque sorte. Et là où les animaux tendanciellement plus mis en avant par les filles, plutôt donc le chat, ou pour prendre le félin l'équivalent félin dans le jeu de cartes, mais ça pouvait être parfois la souris ou parfois d'autres animaux comme le chien ou le renard. C'est plutôt leur qualité soit esthétique qui sont mises en avant, soit morale et relationnelle, c'est-à-dire leur gentillesse et leur douceur, etc. Et là-dessus, c'est ce qui est intéressant, c'est que les réponses des filles des classes supérieures et celles des classes populaires ne sont pas exactement les mêmes. On a tendanciellement une opposition aux réponses des garçons qui d'ailleurs, ce que je retrouve aussi, c'est que les animaux que ces filles aiment le moins, c'est aussi les animaux que les garçons aiment le plus. C'est qu'il y a vraiment une forme de distinction de genre où les animaux qu'on n'aime pas, c'est ceux qui font des bêtises, comme le lion ou le chien, ceux qui aboient fort, un peu comme les garçons dans la cour de récré. Donc il y a aussi cette construction relationnelle des représentations qu'incarnent ces différents animaux.
Quels animaux préfèrent les filles des classes supérieures et les filles des classes populaires?
Bah, les filles des classes populaires mettent plus souvent en avant le chat, la souris ou d'autres animaux, hein, mais en vertu de leur qualité morale, comme je disais, c'est leur gentillesse et leur douceur qui sont mises en avant. Le fait de prendre soin, s'occuper des petits, etc. Là où, dans les classes supérieures, c'est plutôt les qualités esthétiques qui sont mises en avant. Notamment avec parfois un vocabulaire très élaboré de la girafe, j'aime bien sa robe, il a de belles couleurs, le perroquet, ou la coccinelle, elle est très jolie avec les petits points sur son dos, etc. Donc avec une désignation très précise des perceptions esthétiques qui motivent le choix ou la préférence.
Est-ce qu'il y a des animaux qui mettent tout le monde d'accord?
Il y a des animaux qui mettent presque tout le monde d'accord par la négative. Des animaux que beaucoup d'enfants expriment ne pas aimer dans mon jeu de cartes, c'est notamment le scarabée, parce qu'il a une corne, il fait un peu peur, il est noir, c'est un scarabée à cornes. Donc il suscite beaucoup de réactions négatives, à l'exception de quelques enfants, notamment de classe moyenne et supérieure, dont les parents sont cadres ou très diplômés, qui choisissent le scarabée à dessein, en le mettant en avant, son caractère original, le fait qu'il n'est pas comme les autres, etc.
Pour se distinguer? Pour prendre un mot de la sociologie.
C'est très clairement le cas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les enfants ne se cachent pas trop de leur stratégie de distinction. À la différence des adultes, ils n'essayent pas d'euphémiser le fait qu'ils sont en train d'essayer de se distinguer. Donc en fait, c'est parfois des enfants qui vont regarder ce que les autres font et je leur dis non, il ne faut pas regarder quand les autres jouent. Oui, mais je ne veux pas répondre pareil. Donc c'est assumé par l'enfant qu'il y a une volonté de se singulariser ou de se distinguer. Et c'est plus le cas dans les classes moyennes et supérieures que dans d'autres contextes.
Ce sont des bons sujets d'enquête, les enquêtes sur l'enfance. Mm-hmm. On a parlé de Julie Pagis et de Wilfried Ligné. C'est étudier des enfants de 5 ans. On peut parler d'enfance de classe, de Bernard Lahire, mais c'est plus directement sur l'école. Vous allez continuer, Julien Vitoras, à travailler avec des enfants et aller dans des classes de maternelle. Et plus généralement, est-ce que pourquoi c'est une si bonne entrée?
Je vais commencer par la fin. Pourquoi c'est une si bonne entrée? Premièrement, parce que c'est passionnant d'enquêter sur la socialisation primaire, sur ce qui se construit dès l'enfance. Deuxièmement, parce que les enfants sont bons clients. Ce sont des enquêtés agréables. Ils sont souvent contents du sociologue qui est là, qui prend des notes. Ils s'interrogent, qu'est-ce que tu notes? Ils essayent parfois de me faire noter des choses. Donc ça leur donne plein d'occasions de faire des récits et de raconter, par exemple, leur expérience personnelle, familiale, ce qu'ils ont fait le week-end. Donc c'est presque des enquêtés qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ou de trop solliciter. Et puis par ailleurs, quand on les sollicite, ou que dans ces questionnaires ou dans d'autres occasions, c'est aussi des enquêtés qui ont tendance à, comme je disais tout à l'heure, un peu sans filtre, et du coup qui n'ont pas peur de dire les choses. Et parfois qui vendent la mèche en quelque sorte, c'est-à-dire qui vont dire des choses, par exemple, sur leurs parents, que leurs parents n'oseraient pas dire dans ces termes-là, quoi. Donc c'est typiquement cette petite fille dans l'école de l'Ouest parisien qui dit, à un moment tout le monde raconte ce qu'il a fait dans la nature, ce qu'il connaît, les animaux, et elle dit, moi en fait j'ai une forêt à moi, parce qu'une fois, en fait, on était allé, mon papa il fait de la chasse, et il fait de chasse le faisant, et en fait c'est dans sa forêt, parce que mon papa il a une forêt. Et ce côté, mon papa, la forêt de mon papa, c'est évidemment une formule un peu frappante, c'est pour ça que je la mets en avant dans l'ouvrage, mais elle dit quand même quelque chose de fort sur la capacité à voir la nature comme quelque chose d'appropriable, qu'on peut posséder, etc. quoi.
Merci beaucoup, Julien Vitoras. Tant de choses à lire dans votre livre encore. J'en rappelle le titre, La nature à hauteur d'enfance, est publié chez La Découverte. Merci beaucoup aux deux enseignants qui nous ont accompagnés, Delia Gobert et Alexandre Ribaud. Vous aussi, vous avez publié un livre, Faire classe dehors, maternelle et élémentaire, et c'est aux éditions École Vivante. Et merci à Avril Ventura, attachée de production d'Être et Savoir. Merci à Pierre-Henri qui a assuré la technique de ce numéro et à François Richer qui réalise cette émission. Émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de France Culture ou l'appli Radio France.